Vous écoutez, on lit pour vous.
Plein feu sur l'habillement de Kamala Harris. Un texte de Richard Etu, paru le 28 août 2024 dans La Presse. Décrire l'apparence d'une femme ne devrait être fait en aucun cas. Jamais. Plus jamais. Au lendemain du discours de Kamala Harris à la Convention démocrate de Chicago, une lectrice de La Presse a critiqué en ces termes une description de la tenue vestimentaire de la candidate démocrate à la présidence dans le compte-rendu du journal. Elle n'a pas été la seule à s'insurger ainsi. Mais la description de l'apparence de Kamala Harris est-elle vraiment un vieux réflexe sexiste à proscrire? Pas si l'on en juge par l'avalanche de commentaires publiés dans les médias américains sur les tenues de la vice-présidente et des autres femmes qui ont défilé la semaine dernière sur la scène de l'United Center. Les critiques de mode de quotidiens de référence tels que le New York Times, le Washington Post et le Los Angeles Times ont décortiqué chaque jour ce que portaient Jill Biden, Michelle Obama, Gretchen Whitmer et Kamala Harris. Cette dernière s'est présentée devant les délégués et dignitaires démocrates deux fois plus tôt qu'une, soit lundi et jeudi, dans des tenues différentes qui ont été décodées et commentées. Il ne s'agissait pas seulement de décrire la coupe, la couleur ou la marque des vêtements, mais également d'interpréter le message qu'ils envoyaient au public sur le plan politique ou culturel. Voici comment Rachel Tashan, critique de mode au Washington Post, a décrit la nouvelle donne. C'est le moment pour les Américains d'abandonner une conversation dépassée sur la façon dont nous considérons les femmes. Nous ne regardons plus leurs vêtements pour savoir si elles sont capables de faire le travail. Il y a tant d'autres raisons de s'intéresser à ce qu'une personne porte. Aujourd'hui, nous pouvons regarder Harris pour y voir une nouvelle définition, une nouvelle vision du pouvoir. Hillary Clinton et la Convention démocrate de 2016. Il était sans doute inévitable que l'ascension d'une femme au sommet d'un ticket présidentiel force ce nouveau regard. En 2016, Hillary Clinton s'était présentée à la Convention démocrate de Philadelphie vêtue d'un tailleur blanc. Tous les observateurs avaient noté le lien entre cette couleur et le mouvement des suffragettes qu'il avait adopté au début du XXe siècle comme symbole de la lutte pour le droit de vote des femmes. Lors de son discours, Hillary Clinton avait elle-même évoqué ce que représentait sa candidature dans le combat pour l'égalité des femmes. « Ce soir, nous avons franchi une étape importante dans la marche de notre nation vers une union plus parfaite », avait-elle déclaré, en devenant la première femme à accepter l'investiture d'un grand parti américain pour l'élection présidentielle. « Je suis heureuse pour les grands-mères, les petites filles et toutes celles qui se trouvent entre les deux », avait-elle ajouté. Lors de son discours à la Convention démocrate de Chicago, Kamala Harris s'est refusée toute allusion à la page d'histoire qu'elle pourrait écrire le 5 novembre en tant que femme noire. Cependant, dans les gradins de l'United Center, des centaines de délégués étaient habillés de blanc, couleur endossée par plusieurs femmes qui avaient précédé la vice-présidente au micro au cours de la semaine, y compris Ashley Biden, fille de Joe Biden, Deb Haaland, secrétaire de l'Intérieur, et Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan. Tout en passant sous silence la nature historique de sa candidature, Kamala Harris s'est en outre éloignée le plus possible de la couleur des suffragettes. Elle a prononcé le discours le plus important de sa vie, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine foncé. « La couleur du commandant en chef », a commenté Vanessa Friedman, critique du New York Times, qui s'intéresse à la mode en tant qu'expression de l'identité politique, sociale et culturelle à un moment précis, selon sa bio. D'autres critiques ont estimé que la tenue de Kamala Harris transmettait un message de pouvoir, de compétences, d'excellence, comme le complet bleu marine foncé qu'un candidat présidentiel aurait porté en pareilles circonstances. Mais Kamala Harris n'a-t-elle pas pris le risque de se mettre à dos certains de ses compatriotes en s'habillant d'un tailleur pantalon conçu par une marque française, en l'occurrence, Chloé? La question importe à certains créateurs américains qui comptent sur les grandes figures politiques ou culturelles pour faire connaître leurs griffes. Mais elle est rarement posée, sinon jamais, au sujet de Donald Trump, qui a un faible pour les complets de la marque italienne Brioni, ou pour Barack Obama, qui s'est présenté sur la scène de l'United Center mardi soir dernier dans un complet sur mesure Armani. La candidate démocrate à la présidence a quand même exprimé son patriotisme en épinglant un drapeau américain au revers de son veston. Un costume beige. Bien sûr, cet intérêt pour les tenues de Kamala Harris tourne parfois au ridicule. Ainsi, la vice-présidente a fait une apparition surprise sur la scène de United Center lors de la première soirée de la convention démocrate, vêtue d'un tailleur pantalon beige. Un costume beige, s'est étonnée la critique de mode du New York Times. Après tout, il y a peu de vêtements moins susceptibles d'être portés lors des représentations publiques que sont les conventions présidentielles des grands partis. Le code vestimentaire habituel est le rouge, le blanc et le bleu. Costume et cravate, robe, jupe, culotte. Il s'agit de patriotisme au sens le plus évident du terme. Chose certaine, ce choix de couleur a enflammé l'Internet. Kamala Harris voulait-elle se moquer des commentateurs et politiciens conservateurs qui s'étaient indignés de voir Barack Obama se présenter un jour dans la salle de presse de la Maison-Blanche, vêtue d'un costume beige? On peut en douter. D'autant plus que la couleur du tailleur de Kamala Harris n'était pas beige, mais brun noix de coco. C'était, plein feu sur l'habillement de Kamala Harris, un texte de Richard Rétu, paru le 28 août 2024 dans la presse.
La rentrée affûtée, un texte de Jules Faulkner-Leroux, paru le 27 août 2024 dans la presse. Je ne suis pas très futée. Il m'arrive parfois de marquer un bon coup, mais la plupart du temps, je demeure avec l'impression d'être assez limitée de ce côté-là. Pour cette raison, j'affectionne particulièrement les expressions qui mettent en doute l'intelligence des autres. C'est qu'on cherche souvent à blesser autrui là où on se sent soi-même fragile. Une façon maladroite de projeter ses propres vulnérabilités sur les autres. Dans le riche répertoire de ces expressions, il y a celle qui a propulsé Manon Massé bien au-delà des lignes de son parti. Lorsqu'elle a prononcé, en 2017, « Ce n'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte », l'expression est devenue un classique instantané partout au Québec. Mais il y en a d'autres. « Ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin » évoque une image claire qui se passe d'explication. Dire à quelqu'un que « le concombre que j'ai mangé ce midi était moins légume que toi » est une autre façon efficace de faire en sorte que son interlocuteur se sente un peu légume. Encore, dire à une personne qu'elle n'est pas la chips la plus ondulée du sac est aussi une drôle de façon de laisser sous-entendre qu'il lui manquerait quelques circonvolutions là-dedans. Mais l'expression que je préfère est celle-ci. Tu n'es pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Mon crayon à moi, je vous l'ai concédé dès la première ligne de ce texte, n'est pas très aiguisé. Pensez à un vieux crayola à la mine très arrondie, tout juste suffisant pour colorier, mais on ne dessinera rien de très précis avec un tel outil. On ne l'utilisera pas non plus pour écrire de très grands mots. On pourra écrire, par exemple, « terre à terre », Mais on n'écrira pas prosaïque. On écrira pas bon ou, dans le meilleur des cas, nocif. Mais ce n'est pas avec ce vieux crayon mal aiguisé que l'on écrira délétère. C'est que je suis facteur, je suis bon avec les lettres, mais pas avec les mots. Je suis pourtant éduqué, je suis diplômé en droit et en journalisme. Mais la lecture est entrée très tardivement dans ma vie. Et sur les bancs d'école, mon intérêt était aussi variable que la longueur des jupes des filles. Mot nouveau. Lorsque j'ouvre un nouveau roman d'un grand écrivain, je dois souvent m'arrêter parce que je ne comprends pas un mot. J'interromps ma lecture, puis je cherche sa définition. Bien souvent, la surprise est totale et l'émerveillement à son comble. Ce nouveau mot dont je viens de prendre connaissance signifie une chose ou un sentiment bien précis sur lequel je n'avais jamais su mettre le doigt, ou plutôt le mot juste. Voilà que je le découvre enfin. Je passe à la ligne suivante de mon livre et un nouveau mot m'est complètement étranger. Cela m'empêche d'avancer car je ne saisis pas bien le sens de la phrase. L'idée d'apprendre un nouveau mot et de continuer d'aiguiser mon crayon devrait m'exciter. Mais parfois, ma lecture est si souvent interrompue que ma progression me décourage. Galbée, lordose, tarabuste, logorée, atavisme, panoptique, runique, vespérale, poplitée, déhiscence, lixiviation. Lorsque je lis, il m'arrive souvent de me demander si le français est réellement ma langue maternelle, tellement ma lecture est ardue, ma compréhension des choses faible. Dans un des, sinon le, livre de la rentrée, Sébastien Dulude m'a fait chercher les mots talqué, pusillanime et abscon. Ce dernier mot signifie très difficile à comprendre. Je me demande encore si c'est un hasard qu'il soit constitué du mot con. Une mine bien plate, je vous dis. Il est bien connu qu'il est plus facile d'apprendre une deuxième et une troisième langue lorsqu'on est très jeune. Prenez l'anglais, par exemple. Oui, vous pouvez l'apprendre à 19 ans, comme j'ai tenté de le faire. Mais vous garderez presque toujours cet accent idiot qui vous trahit aussitôt la bouche ouverte. Alors que si vous l'apprenez durant votre enfance, vous devenez, presque sans effort, parfaitement bilingue. Cette langue fait désormais intrinsèquement partie de vous, impossible à oublier. De mes expériences laborieuses de lecture, je déduis qu'un processus similaire s'opère pour la maîtrise de notre langue maternelle, ce que l'on apprend tôt sur les bancs d'école et jusqu'à l'université est le socle sur lequel on pourra compter presque indéfiniment. Après cette période d'apprentissage, les choses se fixent, se cristallisent, et vous êtes pris avec la mine que vous avez, aiguisée ou pas. De mon côté, j'ai beau essayer de noter tous ces nouveaux mots savants que je m'efforce d'apprendre, sitôt écrits dans mon calepin, ils s'envolent et ne m'appartiennent plus. J'ai de la difficulté à les retenir, à les faire miens. C'est qu'ils ne font pas partie de ma langue maternelle, celle que j'ai bien pu apprendre. Alors, ils entrent dans ma cervelle aussi difficilement que l'anglais sort de ma bouche. J'aime l'expression « ne pas être le crayon le plus aiguisé de la boîte », car il renvoie bien à cette image que l'esprit puisse être affûté. Or, nul doute que l'éducation et la lecture sont les outils par excellence pour aiguiser ce crayon qu'est notre esprit. J'aurais aimé, vers la fin du primaire ou au début du secondaire, que mes parents me fassent la lecture d'un petit texte comme celui-ci. Bien sûr, j'aurais chigné et fait semblant de ne pas écouter, mais dans mon cours de français, loin de l'influence parentale bienveillante. J'aurais peut-être prêté un peu plus attention. Et aujourd'hui, je serais un meilleur lecteur et donc un meilleur écrivain. Et j'aurais peut-être moins ce sentiment de ne pas être le crayon le plus aiguisé de la boîte. Alors, chers élèves, à vos aiguisoirs et bonne rentrée. C'était « La rentrée affûtée », un texte de Jules Faulkner-Leroux, paru le 27 août 2024 dans la presse.
Une fleur pour faciliter la communication en anglais au CIUS de l'Estrie. Un texte de Sébastien Tanguy, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir. Depuis mai 2024, quelques 1500 employés volontaires du CIUS de l'Estrie ont épinglé un tournesol à leur uniforme pour signifier leur capacité à interagir dans la langue de Charles III afin de favoriser la communication avec les usagers anglophones. Nous avons, en Estrie, un bassin de 40 000 personnes d'expression anglaise, explique Caroline Van Rossum, gestionnaire au CIUS de l'Estrie. Selon un sondage réalisé par la firme Krupp en 2023, le tiers d'entre elles se disent mal à l'aise de demander des soins dans leur langue. Le tournesol vise à surmonter cette barrière linguistique. Toute personne qui le porte affiche sa compétence en anglais et sa volonté de le parler avec les gens afin de respecter le droit des patients, garanti par la loi sur les langues officielles, de recevoir des services médicaux dans un des deux idiomes fondateurs du Canada. Geste de bienveillance et d'ouverture. Enraciné dans les secteurs de la Pommeraye et de Memphrémégog, là où la proportion de personnes d'expression anglaise est la plus forte en Estrie, précise Mme Van Rossum, la mesure se veut un geste de bienveillance et d'ouverture à l'égard de la communauté anglophone estrienne. Médecins, infirmières, préposés, gestionnaires ou gardiens de sécurité, environ 1500 personnes situées à tous les étages de l'organigramme du CIUS ont levé la main pour participer à l'initiative. Ce nombre représente la moitié du personnel employé dans les deux réseaux locaux de services concernés par le projet pilote. « Nous avons une très, très bonne réponse », se réjouit Mme Van Rossum, aussi conseillère cadre au service à la population en langue anglaise. C'est assez indicateur du succès du projet. Le CIUS de l'Estrie se défend de fomenter l'anglicisation de ses milieux de soins. Pour nous, répondre aux besoins des usagers, c'est notre priorité, se défend l'instigatrice de l'initiative. Le fait d'offrir des soins de qualité que les gens puissent comprendre, peu importe leur habilité en français, ça a primé sur toutes les autres considérations. Le port du tournesol se fait sur une base volontaire, précise encore Caroline Van Rossum. Il n'y a aucune obligation et pour nous, c'était très important de respecter le droit des gens de travailler en français. Pour nous, la mesure n'exclut pas un environnement de travail francophone. Les retombées du projet pilote doivent faire l'objet d'une analyse à l'automne et si elles s'avèrent positives, le CIUS souhaite prolonger la mesure, voire l'étendre ailleurs dans son territoire. L'initiative, qui s'inspire d'une mesure similaire établie sur la Côte-Nord, a coûté environ 10 000 $ à mettre en place. Un coût acquitté par les fondations des hôpitaux de Cowansville et de Memphrémégog. Ça ne provient pas du budget de fonctionnement des établissements, souligne Mme Van Rossum. C'était « Une fleur pour faciliter la communication en anglais au CIUS de l'Estrie », un texte de Sébastien Tanguy paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir.
Dépenser la rentrée. Un texte de Nathalie Platte, paru le 19 août 2024 dans Le Devoir. Voilà, nous y sommes. Les rayons serrés de la bibliérie fourmillent de parents accompagnés d'enfants de tous âges qui se penchent, liste à la main, marqueurs fluo dans l'autre, sur des bacs débordant de gommes effacées, calculatrices, colles et autres boîtes de crayons de couleur. Fidèle à mon habitude, Je pensais faire les achats de fournitures scolaires à la dernière minute. Toujours pour cultiver en moi cet irrépressible besoin de frôler la limite de tout. Encore soumise à cet impératif étrange qui me fait sentir vivante, résistante, encore un peu opposante. Or, j'ai flanché un 15 août, près de 2 semaines avant le retour en classe, ce qui pour moi tient du record. J'aurais payé un peu plus de 200 $ pour ma fille, qui commencera sa 2e année du primaire, et un montant quasi équivalent pour mon fils, qui entrera pour sa part en 2e année du secondaire. Ayant aussi, depuis 2008, effectué les achats scolaires pour mes 3 beaux-enfants, je suis à même de constater combien l'inflation ne touche pas que les prix pour chaque article, mais aussi la quantité même de ces articles, ainsi que la spécificité en matière de marque, couleur et texture qui sera exigée pour chacun d'eux. Comme toutes les autres sphères de l'existence. L'école publique se prolonge désormais, elle aussi, dans une forme de capitalisation du vivant, marchant main dans la main avec le néolibéralisme. Il faudra ainsi choisir la couverture de présentation en plastique, orange, pas rouge, pas en carton, pas avec pochette, à 3 agrafes, pas celle encore utilisable de l'an dernier, parce que celle-là, aux misères, a des pochettes. J'y reviens avec vous chaque année à la rentrée, vous m'en excuserez, j'y reviens comme à une chose dont je ne reviens jamais vraiment, en fait, comme si je refusais de célébrer cette manière de nous obliger à la dépense, comme si nous étions collectivement toujours aveugles à toute cette anxiété générée par cette liste chez tant de familles. Déjà, les inégalités socio-économiques se dessinent dans les rayons de la biblérie, elles qui s'ancreront encore davantage une fois dans la cour d'école, à la couleur rouge, celle du stigma. Mes 2 enfants fréquentent l'école publique, mais ils ont la chance de prendre part à un programme vocationnel en musique. Il m'en coûtera, pour les 2, un peu plus de 1 500 $ en ce début d'année. Ce qui n'est pas exagéré, compte tenu de l'excellence de l'enseignement qu'ils recevront, mais qui pèsera néanmoins sur mon budget, pourtant pas parmi les plus à plaindre. Cette année, j'aurai à nouveau une pensée pour tous ceux et celles qui ne pourront embrasser la musique par défaut de paiement, sans égard à leur vocation, justement, celle qu'ils ne sauront peut-être jamais qu'ils portaient en eux. Ces potentialités, laissées pour compte, me font le même effet qu'un jardin abandonné, une impression qu'il faudrait déplier le réel en plusieurs versions, incluant celle où nous aurions tenu jusqu'au bout le bichonnage des plants, l'arrosage et l'exposition juste à la lumière du jour, pour voir ce qu'il serait advenu de toutes ces magnifiques semences. Le système d'éducation, qu'il soit à 2, 3 ou 4 vitesses, n'embraye tout simplement plus le sens de certains, trop enchâssé qu'il est devenu dans une logique où l'égalité des chances se réduit comme peau de chagrin. Au fil des années où elle n'arrive pas, cette révolution qui donnerait à l'école sa juste place dans nos décisions politiques. Il en va de même pour les services que nous offrons, nous, les psys, à ces mêmes enfants, que nous délaissons de plus en plus pour nous réfugier dans le confort ouaté de nos cabinets privés. Je ne nous blâme pas. Je nous comprends d'avoir du mal à tenir à bout de bras l'humain dans des systèmes qui nous parlent de tout sauf de l'humain. N'empêche, plus je vieillis, plus les années d'écart se creusent depuis le jour où j'ai quitté le milieu scolaire pour exercer en cabinet privé, moins je supporte de ne plus offrir mon accueil, mon écoute, mon amour à ces enfants pour qui mon bureau à l'école où je pratiquais dans les années 2000 était parfois le seul lieu de sécurité connu. Je pleure encore souvent, silencieusement, de ces larmes qu'on garde pour soi en repensant à ce petit garçon, négligé dès la naissance, arrivée à la deuxième année, comme ma fille cette année, par une sorte de miracle pareil à ces plants abandonnés qui poussent en force dans nos jardins ou sur les abords de nos autoroutes. Chaque semaine, j'allais le cueillir dans sa classe. Il ne savait pas ce que je lui voulais. Moi non plus, au fond, je ne savais pas vraiment le dire. Comme nous ne trouvions pas les mots pour nous parler, j'avais eu l'idée de descendre au sous-sol de l'école avec lui, à cet endroit où traînait un vieux piano, relique du temps où son école était dirigée par des sœurs. Je jouais ce qui me traînait dans les doigts et alors, il se couchait contre la caisse de l'instrument, fermait les yeux et respirait profondément, comme si quelque chose en lui saisissait tout ce que la musique lui offrait, cette sorte d'apaisement nécessaire au vivre. Nous avons refait le rituel toute une année durant. Bien loin de ce que la psychologie scolaire se devait d'être, avec ses plans d'intervention, ses objectifs et ses évaluations surtout. Ce n'était pas de la psychologie scolaire et pourtant, je pense que ça en était. Préférant imaginer qu'il subsiste en lui, cet adulte d'aujourd'hui, quelque chose de cet englobant, de ce maternage offert par la caisse de résonance d'un vieux piano. Quand la rentrée se pointe, à chaque fin de mois d'août, quand l'air ambiant se charge d'automne, je repense à tous ces enfants qui se préparent à espérer, loin sous leur comportement déjà défensif, que l'école mettra sur leur chemin de ces adultes qui pensent l'éducation au-delà de la dépense. Enseignants, enseignantes, techniciens, techniciennes, éducatrices, éducateurs en service de garde, psychoéducateurs, psychoéducatrices et autres intervenants qui savent cultiver un jardin, avec tout l'amour qui fait parfois défaut dans leur maison. Alors, pour sortir des cases dessinées par les dollars, visibles dès l'achat des fournitures scolaires, il pourrait y avoir quelque chose de beau, comme un vieux piano qui berce un enfant, comme un système public qui tire tout le monde vers le haut, comme une société qui prend soin de ses enfants pour vrai, comme une lubie qui n'en serait pas une, comme une éducation égalitaire, quelque chose comme ça qui débuterait la semaine prochaine. Ce serait tellement beau. C'était « Dépenser la rentrée », un texte de Nathalie Platt, paru le 19 août 2024 dans Le Devoir.